Bien, bonsoir tout le monde. Donc, vous vous souvenez, nous sommes en train de parler de la construction de l'Église. On terminera par la reconstruction de l'Église. Alors, la construction de l'Église, eh bien, on a vu que c'était indispensable pour que le Seigneur vienne prendre les vainqueurs. C'est clair, ce point-là. S'il n'est pas clair, si ce point n'est pas clair pour tout le monde, on pourra en reparler plus tard, ou même d'autres, Christian ou d'autres, pourront parler sur ce sujet. Je vous rappelle qu'il y aura deux enlèvements, et pas un, comme beaucoup le croient. C'est grave de penser qu'il n'y a qu'un seul enlèvement, dans le sens que tout le monde pense partir en même temps, mais ce n'est pas ce que la Bible dit. C'est très clair. Il y a eu deux personnes qui ont été enlevées dans l'Ancien Testament. Elles sont une image des deux enlèvements dans le Nouveau Testament. Et le premier enlèvement sera pour ceux qui marchent dans la victoire, pour les vainqueurs. Et le deuxième enlèvement sera pour les non-vainqueurs. Et ça se passera à peu près au milieu de la semaine de l'Antichrist. Alors que le premier enlèvement se passera avant. Mais je ne veux pas en dire trop à ce sujet. Mais on a vu que ce qui retient l'Antichrist, justement, eh bien, ce sont les vainqueurs. Ce sont les vainqueurs, c'est ce que dit Thessaloniciens. Ce qui le retient et qui l'empêche de venir. Alors, il faut que les vainqueurs partent. Mais pour qu'ils partent, eh bien, il faut qu'il y ait, bien sûr, que la coupe soit pleine, selon Apocalypse 8... Les prières doivent remplir la coupe. Il faut que tous ceux qui sont appelés à être vainqueurs et que le Seigneur prépare le soient. Un vainqueur, c'est quelqu'un qui a dépassé le stade de l'enfant. On a vu ça dimanche. C'est quelqu'un qui a dépassé le stade du croyant. De l'enfant, il est devenu un fils. De croyant, il est devenu un disciple. Et il va dans la direction du disciple accompli. Et donc, pour que il faut qu'il y ait d'abord un rafraîchissement et ensuite une restauration, un rétablissement de l'Église. C'est seulement à ces conditions, à cette condition du rétablissement, qu'il pourra y avoir cet enlèvement des vainqueurs. Alors, on a vu quelques points. Rapidement, je voudrais vous montrer quelque chose que plusieurs d'entre vous connaissent déjà. Là, on va donc aller très vite à ce sujet. Et je vais vous demander de bien regarder des cartes. À la fin de vos Bibles, vous avez des cartes, en général. Mais vous allez voir que ces cartes que je vais vous montrer, elles n'existent pas dans vos Bibles, mais elles sont dans la Bible. Elles sont dans le livre des Actes. Et c'est bien dommage qu'elles n'existent pas, parce qu'elles pourraient vraiment nous permettre de comprendre certaines choses. Voyons rapidement. Donc, là, vous avez la Jérusalem et les environs de Jérusalem. Est-ce que la lumière, là, elle pourrait être éteinte? Ça permettrait... Comment s'est construite l'Église, le début de l'Église? Jérusalem, on est environ en l'an 30. C'est environ en l'an 30 que Jésus est mort et ressuscité. Je vous rappelle que la résurrection de l'Église, c'est que la résurrection de Christ a donné naissance à l'Église. C'est là que l'Église est née. Elle n'a pas commencé à la Pentecôte. Il n'y a aucun verset dans la Bible qui vous dit que l'Église a commencé à la Pentecôte. Ça, c'est une imagination qui vient de l'Église romaine, n'est-ce pas ? Mais qui a été reprise, comme c'est souvent le cas. Mais ça va à l'encontre de ce que nous dit l'Ancien Testament. Et... ça va aussi à l'encontre de ce qu'on voit dans les évangiles. L'Église étant née à la résurrection de Jésus, quand Jésus est ressuscité, au niveau de Matthieu, Marc, Luc et Jean, la fin de ces quatre évangiles, c'est déjà en rapport avec l'Église. Donc vous imaginez ce que ça veut dire. Ça veut dire que, eh bien, quand Jésus dit dans Matthieu 28, « Allez, faites de toute la nation des disciples, formez les nations comme disciples », ça, il le dit déjà à des ministères qui ont commencé à fonctionner dans l'Église. Tout a commencé à Jérusalem. Alors, environ en l'an 30, voyons un petit peu ce qui s'est passé. On peut avancer. Regardez les flèches.
Voilà. Philippe, il est écrit dans Acte 8 que Philippe est allé de Jérusalem à Samarie. Philippe était un des 7 diacres que nous trouvons dans Acte 6. Et dans Acte 8, il est allé à Samarie, il a annoncé l'évangile. On voit d'ailleurs que Philippe, qui était diacre, avait déjà des dons pour être évangéliste. La preuve, il va devenir, changement de ministère, c'est possible, c'est important de savoir ça. On lit dans Acte 21 que Paul, quand il est revenu d'un voyage, il a dormi chez Philippe, l'évangéliste. Donc, c'est clair qu'il n'est pas resté le diacre. Normalement, il reste dans son assemblée locale. Philippe, lui, là, il était encore diacre à ce moment-là. Donc, il va à Samarie, il fait un travail. Et puis, nous continuons. Voilà, il revient dans son assemblée locale. Un ministère doit toujours revenir dans son assemblée locale. Un ministère qui n'a pas d'assemblée locale, je l'ai déjà dit, je le répète, c'est un ministère qui travaille sans filet. Et ça, eh bien, il ne faut pas l'accepter en tant que ministère. En tant que chrétien, c'est pas pareil, c'est autre chose. Mais en tant que ministère, on ne peut pas accepter quelqu'un qui travaille comme un électron libre, tout seul, il dépend de personne. Ça, c'est la porte ouverte à l'orgueil et, bien sûr, à toutes sortes de dangers. Et il va venir apporter le danger dans les assemblées locales. On a vu cet exemple en Amérique centrale. Un homme qui, en plus, c'était même pas un chrétien, c'était un adorateur de Satan. Il a, très vite, dans les assemblées, on lui a donné l'autorisation de prêcher, parce qu'il connaissait bien la Bible. Et en 10 ans, il a détruit 2000 assemblées locales qui ont disparu de la carte. Vous voyez ? Donc, ça, c'est parce que c'était pas fait correctement. Rappelez-vous, les 5 étapes pour servir, on avait pris l'exemple de Timothée. Si on prend la peine de bien former, et si on prend le temps, parce que le facteur temps, on ne peut pas l'enlever, ce n'est pas possible. Si on prend le temps de regarder comment fonctionne la personne, on va voir rapidement si c'est un chrétien, si ce n'est pas un chrétien, s'il a déjà les qualités pour servir, qu'est-ce qui doit se mettre en place dans sa vie, qu'est-ce qui n'est pas en ordre, etc. Bien, alors, Philippe vient faire ce travail-là. Déjà, on peut dire qu'il fait un travail d'évangéliste. À ce moment-là, on est en 32. 2 années se sont écoulées. En 2 ans, il a travaillé comme diacre, et là, on le voit bien faire un travail d'évangéliste. Vous avez remarqué certainement que, eh bien, Philippe, il est allé même jusqu'à baptiser des gens. On voit même que Simon était né de nouveau, puisqu'il l'a baptisé, et on voit qu'il a pratiqué la délivrance. C'est pas lui, on va le voir juste après, avec Pierre et Jean. Donc on voit que des chrétiens peuvent être effectivement possédés par des démons, et pour cela, eh bien, il y a besoin de délivrance dans leur vie. Là, il faut bien comprendre la doctrine du corps, de l'âme et de l'esprit qui, très souvent, est mal comprise. Les gens vont vous dire, mais un chrétien ne peut pas être possédé parce qu'il y a l'esprit de Dieu en lui. Mais il mélange l'esprit, l'âme et le corps. Un chrétien ne peut jamais être possédé dans son esprit, mais il peut l'être dans son âme et dans son corps. Philippe revient. Nous continuons, toujours en 32. Philippe, bon, il continue son travail, c'est toujours dans Acte 8, il passe, il va en direction d'Azote, et puis c'est là qu'il rencontre l'eunuque éthiopien, puis il va jusqu'à Césarée, et il va rester à Césarée, puisque nous le retrouvons dans Acte 21, à Césarée, avec ses 4 filles qui prophétisaient. Nous continuons, ça c'est intéressant quand même de voir que dans le même chapitre, dans Acte 8, il prêche à des foules, à Samarie, et puis il prêche à un individu. Le luc éthiopien, vous voyez, l'évangéliste, il peut faire ce travail. Il ne faut pas qu'il ait tout de suite l'envie de prêcher qu'à des foules. Il faut qu'il soit prêt, ouvert à ce que l'Esprit veut montrer. C'est intéressant de voir quand même que dans Acte 1, je ne l'ai pas dit, mais je le répète, dans Acte 1, il y a des apôtres. Ces apôtres sont anciens dans l'église locale, c'est écrit dans Acte 1, et ils sont aussi diacres. Les versets peut-être ne sont pas évidents à comprendre, mais lorsque, par exemple, Pierre, en parlant de Judas, dit au verset 20 qu'un autre prenne sa charge, il faut le comprendre, cette expression, prendre sa charge. En français, ça ne se voit pas,
Mais rappelez-vous 1 Timothée 3:1, si quelqu'un aspire à la charge d'évêque, c'est en français c'est la même tournure, mais là prendre sa charge, c'est épiscopos. C'est le mot évêque. Un évêque, c'est un ancien. On va le voir un peu plus tard, les anciens sont les dirigeants de l'assemblée locale. Vous voyez déjà là, on s'éloigne un petit peu de la vérité actuelle. Aujourd'hui, on parle que de pasteur et on dit le pasteur dirige l'assemblée locale. Non, ce sont les anciens, mais on le verra un peu plus loin. Et puis, au verset 17, il avait part au même ministère. Et là, le mot ministère, c'est diaconia. Donc, diacre. Ben, c'est normal, l'Église commence, eh bien, il n'y a pas encore des personnes capables de faire le travail, donc les apôtres sont aussi anciens et diacres. Acte 6, ils ont, donc, il y a 7 diacres qui ont été établis, par qui ? Par les anciens de l'Église de Jérusalem. C'est les anciens qui établissent des diacres. Donc ça s'est fait, on est arrivé à acte 8, donc il va jusqu'à César. On continue maintenant, ça s'est fini avec Philippe, voilà. Là, vous avez, oui, alors on a fait l'aller-retour déjà, hein, d'accord. Vous avez Pierre et Jean qui vont à Samarie, et c'est eux qui vont établir l'Église. Un évangéliste, il vient, il y a un groupe qui se forme, c'est pas encore l'Église. Et l'Église, c'est lorsque les apôtres viennent, et là, eh bien, ils vont faire le travail de délivrance avec Simon, vous vous rappelez, ils vont prier pour le baptême dans l'Esprit, et puis l'Église va se mettre en place. On peut parler d'Église au sens biblique. Aujourd'hui, on emploie le mot Église à tort et à travers. L'Église n'est pas un bâtiment, mais on emploie le mot Église. Bon, on parle d'Église à partir du moment où il y a quelques personnes qui sont ensemble. Non, ça c'est ce que dit Matthieu 18, là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Il n'y a pas le mot Église dans ce verset. Il y a le mot assemblée, synagogues, rappelez-vous, hein. Synagogue, on en a parlé l'autre jour. Mais l'Église, normalement, bibliquement, c'est à partir du moment où il y a à un endroit des chrétiens qui dépendent des apôtres. Il faut qu'il y ait cette dépendance d'apôtres. Et bien sûr, aujourd'hui, on a remplacé, enfin, quand je dis aujourd'hui, c'est pas aujourd'hui même, c'est, si vous voulez, au fil des siècles, on a fait quelque chose qu'on n'aurait jamais dû faire, c'est qu'on a remplacé les apôtres et d'autres ministères par les dénominations et par un bureau national, par un synode, etc. Et ça, eh bien, on ne le voit pas dans la Bible. C'est une critique constructive que je fais, vous comprenez. Je ne suis pas en train de dire de taper sur des dénominations. Hein. Donc, ils font le travail, puis ils reviennent dans leur assemblée locale. Pierre et Jean reviennent dans leur assemblée locale. On est en 32. Nous continuons. Voilà. On a une flèche qui arrive d'en haut, là. En fait, elle arrive de Damas. C'est plus haut, donc je n'ai pas pu le noter. C'est Saul de Tarse. Et là, Saul de Tarse vient de Damas à Jérusalem. C'est le commencement, du ministère de Saul. Qu'est-ce qui s'est passé? Il faut là que vous preniez vos Bibles dans Actes chapitre 9. Et vous allez bien comprendre comment ça s'est passé. Quand on lit Acte 9, on a l'impression que Saul de Tarse, il a rencontré le Seigneur sur la route de Damas, puis arrivé à Damas, il s'est mis à prêcher, et puis il a prêché franchement, et puis ensuite, après avoir prêché, eh bien, on le voit venir à Jérusalem. Ce n'est pas comme ça que ça s'est passé. Ce n'est pas du tout ça, parce qu'on ne peut pas prendre que Acte 9. Acte 9, 1 à 19... correspondent à Galates 1, versets 15 et 16. Galates 1, acte 9, les 19 premiers versets, correspondent à Galates 1, versets 15 et 16. Et ça nous parle de la nouvelle naissance de Saul. Ça s'est passé à peu près en 32, 2 ans après la résurrection de Christ, en 32. Et puis ensuite, vous avez acte 9, versets 20, je le lis. « Et aussitôt il prêcha dans les synagogues que Jésus est le Fils de Dieu. Cependant Saul se fortifiait, verset 22, de plus en plus, et il confondait les Juifs qui habitaient Damas, démontrant que Jésus est le Christ. » Et le verset 27b, « Qui lui avait parlé Et comment à Damas il avait prêché franchement au nom de Jésus? Eh bien, c'est en 32, et tout simplement, là, quand il est né de nouveau, il a tout de suite voulu partager ce qu'il avait reçu. Il a prêché, je vous rappelle que prêcher, ça veut simplement dire parler, hein, parler, dire. Et il a prêché en 32. Puis, là, il faut placer Galates 1, versets 17 et 18. Je les lis. « Je ne montai point à Jérusalem vers ceux qui furent apôtres. » Donc, vous voyez, ce n'est pas cette flèche-là. Ça n'a rien à voir avec ce que je vous montre ici. Il dit « Je ne montai point à Jérusalem vers ceux qui furent apôtres avant moi, mais je partis pour l'Arabie, puis je revins encore à Damas. » Verset 18. « 3 ans plus tard, donc 32 plus 3, ça fait 35, et c'est la flèche que vous voyez maintenant, « Je montai à Jérusalem pour faire la connaissance de Céphas, et je demeurai 15 jours chez lui. » Il a donc bien, ça correspond bien, je vous demande de vous rappeler ce que j'ai dit dimanche, les 3 ans de formation. Vous vous rappelez? Et il a bien eu 3 ans de formation en Arabie. Alors après, on peut toujours spéculer, il y en a qui disent qu'il est allé à Petra, il n'y a rien qui le dit, la Bible ne le dit pas, l'histoire de l'Église ne le dit pas, on ne va pas discuter là-dessus. Mais rappelez-vous, quand vous serez entré dans le pays, vous y aurez planté toutes sortes d'arbres fruitiers, vous en regarderez les fruits comme un circoncis pendant 3 ans. Pendant 3 ans, Saul de Tarse est en Arabie, et là, eh bien, il n'y a pas de fruits. Là, il est formé directement par le Saint-Esprit, et il prend du temps avec le Seigneur. Puis, après le temps en Arabie, la fin du verset 17, Galates 1, 17, nous dit « Puis je revins encore à Damas ». Donc, il revient à Damas après l'Arabie, et ça correspond à Actes 9, versets 23 et 24. Nous lisons « Au bout d'un certain temps, les Juifs se concertèrent pour le tuer et leur complot parvint à la connaissance de Saul. On gardait les portes jour et nuit afin de lui ôter la vie. » Ça, c'est quand il est revenu de Damas, c'était en 35 que ça s'est passé. Vous vous rappelez peut-être de cet épisode dans sa vie. Ce n'est pas quand on a voulu le tuer à Jérusalem. Hein. Ça, c'est quand on l'a descendu dans une corbeille le roi Arétas, vous vous rappelez peut-être de ça. Et là, eh bien, nous continuons avec Acte 9, versets 26 et 28. Lorsqu'il se rendit à Jérusalem.
Voilà, on est là. Alors là, j'ai mis la flèche, pourquoi? Parce que maintenant, Paul a été formé, et maintenant, il est revenu à Damas, il a prêché à Damas. Là, c'est un ministère, et c'est un ministère qui vient à Jérusalem.
Lorsqu'il se rendit à Jérusalem, Saul tâcha de se joindre à eux, mais tous le craignaient, ne croyant pas qu'il soit un disciple. Il allait et venait avec eux dans Jérusalem et s'exprimait en toute assurance au nom du Seigneur. C'est Acte 9, versets 26 et 28. Et ça correspond à Galates 1, versets 18 et 19. Vous voyez, il faut toujours prendre Acte 9 avec Galates 1 pour bien comprendre. C'est Galates qui nous donne certains renseignements que nous n'avons pas dans le livre des Actes. Galates 1, 18 et 19. « 3 ans plus tard, je montai à Jérusalem pour faire la connaissance de Céphas. Je demeurai 15 jours chez lui, on l'a lu. Mais je ne vis aucun autre des apôtres, si ce n'est Jacques, le frère du Seigneur. »
Ah, on a parlé des apôtres, on a parlé un petit peu des anciens, des évêques, des diacres. On a vu un évangéliste. Et voilà qu'on est en train de parler de Jacques maintenant, le frère du Seigneur. Retenez bien cela, parce qu'on va revenir là-dessus. Il a vu Pierre, mais il a vu aussi Jacques, le frère du Seigneur. On est en 35.
Nous continuons, acte 9, verset 30. Les frères l'ayant su l'emmenèrent à Césarée
et le firent partir pour Tarse. On peut continuer là. Voilà, vous voyez, on a voulu le tuer à Jérusalem. Il l'amène jusqu'à Césarée, Césarée prend le bateau et il va jusqu'à Tarse. C'est ce qu'on lit dans Actes 9, 30, départ de Jérusalem pour Césarée puis Tarse en l'année 35. Puis nous arrivons maintenant à la suite de la vie de Paul. On va continuer. Là, on était juste aux alentours de Jérusalem. Maintenant, on va voir la suite. Qu'est-ce qu'il y a là?
Il y a juste un jour qui s'est déjà parlé.
Celui-là, là? Ah, c'est Pierre, j'ai oublié Pierre.
Comment ça se fait que j'ai oublié Pierre ? Ah, mais oui, parce que c'est après, normalement. Laissons Paul deux secondes. En 35 et 36, on est donc là, on était en 35. En 35 et 36, vous avez Pierre, c'est dans Acte 9, qui visite les saints. Vous voyez, le travail apostolique, ce n'est pas seulement de commencer des églises, mais c'est de continuer les églises. Visiter, il visite les saints, il visite les églises. Pierre va à Lydde, puis il va à Jopé, puis de Jopé, il va à Césarée. Intéressant. Hein? Et de Césarée, il retourne, on peut voir la flèche là, voilà, il retourne dans son assemblée locale à Jérusalem. C'est dans Acte 9. Les apôtres, ils sont... Il n'y a pas un seul ministère qui n'est pas soumis à un autre ministère. Vous comprenez? Et les apôtres qui ont été... Dieu a dit qu'il a établi premièrement des apôtres dans l'Église. Ce n'est pas premièrement pour être au-dessus des autres. Non, c'est dans l'Église. Attention, c'est parce que, je le dis souvent, on n'est pas des sauterelles. Selon le livre des Proverbes, les sauterelles, elles n'ont pas besoin d'avoir un roi. Elles sortent toutes en division. L'être humain ne peut pas faire ça. L'être humain, il a besoin de personnes qui le dirigent. Et les apôtres, premièrement, deuxièmement les prophètes, troisièmement les docteurs. C'est écrit dans Acte 12, 1 Corinthiens 12, 28. Donc, c'est pour ça qu'il y a un premièrement. Parce que tout le monde ne peut pas diriger, c'est évident. C'est pas possible. Sinon, tout le monde, si tout le monde dirige, ça va être l'anarchie dans l'Église. Et pourquoi je parlais de ça en rapport avec Pierre? Alors Pierre, là, vous voyez, il va visiter les saints. Le ministère apostolique visite les églises. Il y a 12 images du ministère apostolique dans 1-2 Corinthiens. Si vous prenez ces 12 images, vous comprenez tout le travail d'un apôtre. Vous allez voir que c'est énorme comme travail. Il y a 12 images. Une de ces 12 images, c'est être un père. Cette notion a été perdue, on le disait dimanche. On ne parle plus de père aujourd'hui. Hein. La plupart du temps, ça a été perdu. Et je pense au mouvement dans lequel j'étais avant. Lorsque le pasteur partait d'une assemblée locale, il n'avait plus le droit d'avoir contact avec les chrétiens de l'église où il était, pour ne pas déranger le travail du pasteur suivant. C'est une catastrophe. Quand les apôtres ont une responsabilité dans une église, ben ils doivent continuer ce travail, et ils doivent le continuer jusqu'à la fin de leur vie. Ça, c'est ça la mission. Alors Pierre nous montre bien cet exemple, hein, avec à Lille, avec Aimé, et puis les questions de Tabitha, etc. Puis, bon, il revient à Jérusalem. Quand je disais qu'ils sont toujours soumis à un autre ministère, ben, tout simplement, Pierre, il était soumis au conseil des anciens dans l'église de Jérusalem. On va le voir tout à l'heure avec Paul. Paul était soumis aux anciens de son assemblée locale. Et voilà le problème, si un ministère n'a pas d'assemblée locale, il est soumis à personne. C'est ça le grand danger. On continue. Voilà, alors vous avez vu ici, Jérusalem, voilà, vous le voyez en plus petit ici, c'est pour ça qu'on l'a fait en grand, sinon vous n'auriez rien vu sur une carte comme celle-là. On peut voir, qu'est-ce qui se passe là? Vas-y, avance, voilà. Et alors, nous arrivons, donc il y a un point important, dans Acte 8, 1, il est dit qu'il y a eu une persécution à Jérusalem, et tous, excepté les apôtres, ont été dispersés. On est compte, ils étaient des milliers, 3000, 5000, et puis il y a eu une dispersion. On peut voir ce qui s'est passé? Voilà, il y en a qui sont allés dans l'île de Chypre, Barnabas était de Chypre, Jean, surnommé Marc, était de cette île aussi. Il y en a qui sont allés à Damas, il y en a qui sont allés à Antioche de Syrie, c'était la capitale de la province de Syrie. Alors, on a vu tout ce petit coin-là. Pourquoi il y a eu cette persécution? C'était pas une persécution qui venait du diable, c'était une persécution qui venait de Dieu. Quand on ne veut pas appliquer Acte 8, eh bien Dieu met en place Acte 8, 1. C'est simple à comprendre. Vous pouvez retenir, là, c'est facile. Quand Dieu nous parle, Acte 8, vous serez mes témoins à Jérusalem, en Judée, en Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Là, c'est Dieu dans son amour qui vient avec sa main droite. Je dois toujours réfléchir quelle est la droite parce que je suis gaucher. Et puis qui vous dit quelque chose avec beaucoup d'amour, gentiment. Et puis si vous n'obéissez pas, ben, il est obligé de prendre la gauche. Hein?
Et c'est la persécution d'Actes 8.1. Ils étaient tellement bien entre eux qu'ils ne voulaient pas partir de Jérusalem. Mais ils avaient oublié la mission, ils avaient oublié le travail. Donc il y a eu cette persécution et ils sont allés dans ces différents endroits. C'est Actes 8.1. On va les retrouver dans Actes 11, ces gens-là. On va voir ce qui s'est passé. Continuons. Qu'est-ce que nous avons là? Voilà. Déjà. Ah, bon, alors. Bon, alors on est là. Il n'y a rien après cette. Il n'y a rien. Alors, remets ces flèches, oui.
Oui, remets ces flèches. Je reviendrai un petit peu plus tard, alors. Donc, la dispersion, elle s'est faite. Cette dispersion, ça a duré un certain temps quand même. Hein, de 33 à 43. 10 ans. 10 ans, hein. Alors. Au bout de 10 ans, bien sûr, le travail, en 10 ans, vous imaginez, l'évangélisation, le témoignage, tout ce qu'ils ont pu annoncer partout, en Judée, en Samarie, ils sont allés en Galilée, qui est encore plus haute, et puis ils sont allés au-delà, Antioche, bon, et puis à Saïra, jusqu'aux extrémités de la terre, avec Paul, avec d'autres, je vous dirai quelques mots tout à l'heure. Alors, voyons là, maintenant on y va. Et c'est toujours la même chose qui se passe, comme dans Acte 8. Vous vous rappelez, dans Acte 8, Philippe évangélise à Samarie. Le bruit en parvint aux oreilles de l'église de Jérusalem. Ils envoyèrent Jacques et Jean. Voilà, vous voyez comment ça se produit. À partir du moment où il y a une œuvre qui se développe et quelque chose qui se fait, il faut que rapidement, ça devienne une assemblée locale. On envoie les apôtres. Eh bien, c'est la même chose ici. Tu peux y aller, Franck. Voilà. Le bruit en parvient aux oreilles de Jérusalem, qu'il y avait des chrétiens qui étaient allés jusqu'à Antioche. On est dans Acte 11, souvenez-vous. Et là, il y en avait qui avaient parlé d'abord seulement aux Juifs, puis après, ils ont parlé aux Grecs. Et ils ont envoyé Barnabas de Jérusalem à Antioche. C'est intéressant, le mot « envoyé », ça veut dire « apôtre ». Dans nos Bibles, nous, en français, c'est seulement dans Actes 14:14 que vous avez le mot « apôtre » pour Paul et Barnabas. Mais vous voyez que déjà là, dans Actes 11, ils ont envoyé Barnabas, et c'est en 44. On est en 44, hein, dispersion de 33 à 43. 44, le bruit en parvint aux oreilles de l'église de Jérusalem, ils envoient Barnabas. On continue. Qu'est-ce qui se passe là? Ah, alors vous vous rappelez, voilà la fameuse, je reprends la flèche, donc Paul qui vient de Damas à Jérusalem, c'est important, parce que le passage de Galates, regardez, si vous avez des sous-titres dans vos Bibles, dans Galates, vous verrez qu'ils vous ont mis Acte 15, alors que c'est Acte 11, ça n'a rien à voir, hein, sinon on se trompe complètement. Galate. Tu sais où c'est Galate? Rococo Gaïficotès. Alors, Galate. Hein? Voilà. Alors, tu vois par exemple Galate 2. 14 ans après, ils ont mis Acte 15. Vous avez remarqué? Et on va voir que c'est Acte 11. Hein? Donc, revenons avec Paul quelques instants là. Voilà, c'est la flèche que vous aviez vue tout à l'heure. De Jérusalem, il part à Césarée. On continue. Les frères l'accompagnent jusqu'à Césarée. Bon, il ne veut pas y aller.
Il y a quelque chose qui est descendu là, je ne sais pas ce que c'est, au-dessus d'Azote.
Ah oui.
Oui, mais il faut, vas-y, continue. Il va aller à Césarée, il faut qu'il avance, voilà. Et de Césarée, il va jusqu'à Tarse. D'accord ? Je vous rappelle que là, quand il est arrivé à Tarse, eh bien, on était en 36. Et Paul, il va rester à Tarse de 36 à 44, c'est-à-dire 8 ans. Et pendant 8 ans, Paul n'est pas avec les frères à Jérusalem. Mais pendant 8 ans, qu'est-ce qu'il va faire? Alors là, c'est Galate qui nous aide. Je lis Galate 1, 21. « J'allais ensuite dans les contrées de la Syrie. » Allez, on y va. De la Syrie, et Antioche étant la capitale de la Syrie, c'est pas possible que Paul ne soit pas allé à Antioche, et de la Cilicie, La cible ici, c'est ici. Vous voyez, ça veut dire qu'en 8 ans, Paul, il a fait des... Je ne sais pas. Je ne peux pas dire parce qu'on voyageait plus lentement qu'aujourd'hui. Mais il a fait au moins 10 voyages. Ce qui veut dire que le premier voyage de Paul à la fin de vos Bibles, ben c'est complètement faux. Ce n'est pas le premier voyage. Vous voyez, c'est une carte que vous pouvez établir à partir de vos Bibles, ça. Et c'est très clair ce qui est écrit. On n'est pas encore au premier voyage de Paul avec Barnabas dans Acte 13, là. On est bien avant. Paul, là, était tout seul. Il a fait plusieurs voyages en Syrie, dans Antioche, en Cilicie. Et qu'est-ce que je pourrais vous dire encore? Eh bien, 8 ans de... Imaginez pendant 8 ans ce que Paul a fait. C'était quelqu'un... Paul, c'était quelqu'un qui ne traînait pas, hein, qui... Je dirais qu'il a préparé la suite, Dieu s'est servi de lui pour préparer la suite, surtout le travail à Antioche. Alors, nous revenons à Barnabas. Barnabas, en 44, il va à Antioche, envoyé par les anciens de l'église de Jérusalem. Toujours en 44, qu'est-ce qu'il fait? Regardez ce qu'il fait. Il est là, hein, la flèche jaune. Mais il va tout simplement voir son ami Saul de Tarse, parce qu'il sait qu'il est là. Et n'oubliez pas que c'est lui qui a présenté Saul de Tarse aux apôtres. Ils ne croyaient pas qu'il était converti. Ils avaient peur de Saul. Et c'est Barnabas que Dieu a envoyé à l'époque où il est passé à Jérusalem, ici. Et donc, il se connaissait bien. Il va à Tarse. Vous verrez, c'est écrit tout ça dans Acte 11. Hein. Et puis, nous continuons. Et de Tarse, voilà, ils reviennent à Antioche, où ils vont enseigner l'église d'Antioche pendant 1 an. C'est ce que nous dit la Bible. Pendant 1 an, donc ça nous fait 44-45, si vous voulez, une année. Et en 45, nous apprenons, allez, normalement, une flèche qui doit partir de Jérusalem. Voilà, là, voilà, vous voyez, des prophètes, dans un que nous connaissons, il s'appelle Agabus. Ils viennent de Jérusalem à Antioche. Tiens, voilà, encore un ministère qui apparaît. Et le ministère de prophète. De Jérusalem à Antioche. Ils prophétisent. Agabus va prophétiser une famine. Et puis, d'Antioche, ils reviennent dans leur assemblée locale. Voilà, on les fait revenir, toujours la même couleur, mais en très plein. Hein. C'est en 45. Et puis, nous arrivons maintenant... À la suite de cette famine annoncée, qu'est-ce qui s'est passé? Les anciens de l'église d'Antioche, ils ont décidé d'aider l'église de Jérusalem, parce que la famine a été annoncée pour la Judée. Et on voit, c'est là par exemple qu'on apprend que c'est dans une assemblée locale, ce sont les anciens qui dirigent les finances, et c'est à eux qu'il faut faire parvenir l'argent. Et c'est eux qui vont s'occuper, parce que normalement, les anciens connaissent les chrétiens, et c'est eux qui savent qui a besoin. Continuons. On a une autre flèche, là, c'est la bleue. Voilà. Alors, à la suite de ça, les anciens décident que Paul, Barnabas, enfin, Saul de Tarse encore, hein, Barnabas, et un d'entre eux, qui n'est pas cité dans les actes, mais il est cité dans Acte 2, c'est Tite. Ils descendent, ils apportent une collecte de l'église d'Antioche, ils l'apportent aux anciens à Jérusalem. Puis, à la fin, ensuite, après avoir remis... Donc, ils font un travail de diacre. C'est très intéressant. C'est le mot diacre qui est employé là dans le livre des Actes. Vous voyez, parfois, les apôtres peuvent faire un travail de diacre. Puis, quand ils ont fini ce travail, eh bien, ils remontent. On peut les faire remonter, voilà. Où est-ce qu'ils remontent? Ici, c'est ça. Ils remontent dans leur assemblée locale. Mais il n'y a pas que Saul de Tarse, Barnabas et Tite. Il y a aussi Jean surnommé Marc qui remonte avec eux. On l'apprend parce que Jean surnommé Marc, il vivait avec sa maman, qui s'appelait Marie, à Jérusalem. On apprend ça dans Actes 12-12. Il y avait un groupe de maisons. Et il y avait certainement beaucoup de groupes de maisons dans l'église de Jérusalem parce qu'ils étaient très nombreux. Donc c'est en 46 que ça se passe, tout ça. Et puis, nous continuons, et là, on a encore un ministère qui part de Jérusalem. Où est-ce qu'il est ? Ah ben c'est celui-là, hein. L'aller-retour, il était là. C'est ça, c'est Pierre. Nous apprenons ça dans Galates au chapitre 2. Pierre vient de... Il vient visiter l'église. Il vient de Jérusalem à Antioche, vous vous rappelez, c'est l'épisode où il va être repris par Paul, parce qu'il avait entraîné Barnabas à judaïser, etc. Puis quand Pierre a fini sa visite, il revient, bien sûr, dans son assemblée locale à Jérusalem. Là, on est en 46. Toujours en 46, nous apprenons, toujours dans Galates 2, que des proches, on peut les faire aller de Jérusalem à Antioche, là.
Bleu,
où il est?
Entre le bleu ciel et le violet. Un bleu marron pointillé.
Ça là?
Bleu foncé pointillé.
Où ça?
Attends, je peux voir.
Il est pas là.
J'ai pas vu moi. Vous le voyez là? Bon, en tous les cas, il est dit qu'il y a des proches de Jacques. C'est l'église de Jérusalem, sous l'autorité de Jacques, qui envoie des ministères à Antioche. Ils vont faire un travail en Antioche, fortifier l'église, puis ils reviennent dans leur assemblée locale. On est encore en 46, c'est écrit dans Acte 2, des proches de Jacques. Puis en 47, alors là, ça c'est ce que vous connaissez bien, 47, l'église d'Antioche décide, les anciens décident que Paul et Barnabas et Jean, surnommé Marc, n'oubliez pas qu'il est venu de Jérusalem, il est resté à Antioche, eh bien ils partent et ils font ce que vous trouvez écrit à la fin de vos Bibles, un voyage de 2 ans. Alors il y a le voyage aller, le voilà. Entre-temps, quand ils arrivent ici à Perge, qu'est-ce qui se passe à Perge? Regardez, il y a Jean surnommé Marc qui prend peur parce qu'il était chypriote, mais comme là ça s'éloigne de son île, il est encore jeune, il a peur, il retourne vite chez sa maman. À Jérusalem, il ne revient même pas dans l'assemblée locale d'Antioche, où il est parti, il retourne à Jérusalem, et nous apprenons qu'il a abandonné Barnabas et Saul de Tarse. Eux continuent leur voyage, ils vont faire, on peut voir un petit peu, voilà, ils vont faire toutes ces villes-là, ça va durer 1 an. Allez, on continue, on essaie d'accélérer, je voudrais vous dire plus que ça. Et puis, ils reviennent sur leur pas la 2e année et ils rentrent dans l'église d'Antioche. Ils reviennent toujours dans leur assemblée locale. Ça dure 2 ans. À la fin des lors de la 2e année, nous apprenons dans Acte 14 qu'ils établissent des anciens dans chaque assemblée où ils sont passés. Première année, ils font de l'évangélisation. Ils annoncent l'évangile, des gens se convertissent. 2e année, ça devient une église. Ils établissent des anciens. Vous voyez, c'est comme ça que ça se passait. Ça semble assez simple hein, à première vue, mais donc ça a duré 2 ans et ça se passe en 47. Le retour, c'est en 48. Puis en 49, c'est la fin d'acte 14. En 49, il y a une discussion en Antioche, là, et finalement, il est décidé par les anciens que Paul. Là, il s'appelle Paul maintenant, Barnabas, et quelques-uns des leurs montraient à Jérusalem, pour ce qu'on a appelé le fameux concile de Jérusalem dans Acte 15. Alors on les fait descendre, on doit bien avoir une flèche qui descend là. Où est cette flèche? Elle est où? Vous la voyez là? Elle est bien cachée, blanche. Bien, alors ils descendent à Jérusalem, il y a Paul, il y a Barnabas, il y a quelques-uns des leurs qui descendent. Ils parlent de ce que Dieu a fait avec eux en descendant et puis à Jérusalem, bien sûr. Ils se retrouvent avec les apôtres, avec les anciens. Une fois qu'ils ont pris des décisions, une lettre est écrite pour que la paix demeure dans toutes les assemblées. Vous voyez, on insiste sur la saine doctrine. Il n'y a pas plusieurs doctrines. Il n'y a pas plusieurs saines doctrines. Acte 2, 42, ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, pas les enseignements. La saine doctrine au singulier. Quand il y avait un problème dans les églises, les apôtres se réunissaient avec les anciens et puis ils décidaient, ils priaient, c'est ce qu'on voit écrit dans Acte 15, et il a paru bon au Saint-Esprit et à nous, ils ont écrit une lettre. Et cette lettre va être envoyée dans toutes les églises, et ça c'est le retour. Le retour, où est-ce qu'il est le retour? Voilà, Vous voyez là, le retour, mais il ne remonte pas tout seul. Il remonte avec Jude et Silas. C'est écrit à la fin d'acte 15. Et puis nous apprenons que, on est en 49, nous apprenons que Jude, il est redescendu dans son assemblée locale à Jérusalem. Où il est Jude? Vous le voyez, Jude? Là. Il est là. Il redescend à Jérusalem. Par contre, Silas, il est resté à Antioche. Et Silas, accompagné de. Donc, Paul va accompagner Paul. Et c'est le voyage, on peut le voir, ce voyage. Ah, bon, ça, c'est. Si vous voulez, il y a une dispute entre Paul et Barnabas. Barnabas prend avec lui Jean surnommé Marc qui vont à Chypre. Et Paul, allez, le voilà, non, le voilà ici. Et Paul, eh bien, il prend avec lui Silas. Et c'est le soi-disant deuxième voyage de Paul. On est en l'année 50. Donc là, si vous voulez, je n'ai pas besoin d'aller plus loin. De toute façon, le livre des Actes ne vous en dit pas plus. Il n'y a pas plus de détails à ce niveau-là. Ce que je veux vous dire, c'est que on a 20 ans de travail. C'est beaucoup, 20 ans. En 20 ans, voilà ce qui a été fait. Vous pouvez remarquer une chose, c'est que les églises, elles se sont construites, elles se sont unies au niveau, pour former le corps de Christ, non pas au travers d'une organisation, mais au travers des ministères. Et il y a un point qui est très important sur lequel je veux insister. La Bible, dans le livre des Actes, nous parle principalement de deux villes. Seulement Jérusalem et Antioche. Les autres villes, c'est accessoire, si vous voulez. Mais, imaginez, il y a tous les autres apôtres. On n'a pas parlé de Jean, on n'a pas parlé de Matthieu, on n'a pas parlé de tous les autres apôtres qui ont fait eux aussi du travail. On n'a pas parlé des autres villes où il y a eu du travail qui a été fait. Ce que le livre des Actes veut nous montrer, c'est que il y avait énormément de relations entre les assemblées. Regardez. Et c'est les ministères du corps de Christ qui faisaient les relations entre eux. Ce n'est pas une organisation. Il n'y avait pas de président, il n'y avait pas de pape. Non, c'était les ministères entre eux qui travaillaient dans l'harmonie. C'était Genèse 1 et 2, comme je vous ai expliqué l'autre jour. Et ça, c'est la grande leçon que nous avons dans les 16 premiers chapitres du livre des Actes. Après, du chapitre 17 jusqu'au chapitre 28, c'est surtout en rapport avec Paul, vous n'avez plus... ça nous intéresse beaucoup moins. Là, l'Église, elle existe déjà, il y a déjà plusieurs assemblées, et on voit bien comment ça se construit. On n'a pas tout expliqué. Vous voyez, on a parlé des prophètes, il y a un ministère qu'on a oublié, il y avait aussi, dans Acte 13, 1, des prophètes et des docteurs dans l'Église d'Antioche. Regardez comment cette Église a évolué. Dans Acte 11, je vous le rappelle, Agabus et d'autres prophètes sont allés à Antioche. Il n'y avait pas de prophète à Antioche. Voilà que pendant un an, ils vont enseigner Barnabas et Saul à Antioche, il n'y avait pas de docteur. Et puis dans Acte 13, 1, il y avait des prophètes et des docteurs à Antioche. L'Église a grandi selon les schémas que nous avons vus ensemble dimanche dans la journée. Hein. Donc l'Église se développe avec les ministères. On a parlé des apôtres, des anciens. Alors anciens et évêques, ce sont les mêmes personnes. Vous n'avez qu'à lire Acte 20, Paul fait venir les anciens d'Église d'Éphèse à Millet. Et ils sont appelés évêques quelques versets plus tard. Vous voyez dans Tite, chapitre 1er, c'est la même chose. Les anciens sont appelés évêques. Anciens ou évêques, un évêque, c'est un ancien qui a grandi en maturité, qui exerce un autre ministère que le ministère d'ancien. Il y avait des diacres, il y avait des prophètes, il y avait des docteurs, il y avait Philippe l'évangéliste. Voilà, on a 6 ministères. Le chandelier, il comporte 7 branches. Proverbe 8, on sait que c'est... Proverbe 8, c'est la sagesse, c'est la sagesse personnifiée, c'est Jésus. Et dans Proverbe 9, 1, il est dit « La sagesse a bâti sa maison », c'est une prophétie sur l'Église, et elle a taillé ses 7 colonnes. Donc il y en a 7. Il nous en manque une. Qu'est-ce que j'ai oublié ? Oh ! J'ai oublié le pasteur. Le ministère dont on parle le plus aujourd'hui, vous ne le trouvez jamais cité dans le livre des Actes. Ça va nous donner du sens, ça. Il faut réfléchir. Il faut remettre en question nos idées. Vous voyez, c'est quand on a eu le réveil, c'est là que j'ai découvert ces choses-là. Si vous voulez, le Saint-Esprit m'a touché. Quand il y a eu le réveil en Afrique, j'ai pris avec moi mes étudiants. Et puis je leur ai dit, maintenant, on va se mettre autour d'une table, on va ouvrir la Bible, on va étudier le livre des Actes. Et c'est là qu'on a vu que ça ne fonctionnait pas bibliquement. Un ministère a pris la place de tous les autres. Et là, ça ne peut pas marcher. Alors, bien sûr que le ministère pasteur existe. Il est dans Éphésiens 4, 11. Et vous allez le voir dans le livre des Actes, c'était Jacques. Je vous ai demandé de retenir le nom de Jacques. Jacques, ce n'était pas n'importe qui. Ce n'était pas les deux apôtres Jacques, ce n'était pas Jacques, frère de Jean, et ce n'était pas Jacques, fils d'Alphée. Alors, qui était ce Jacques? Eh bien, ce Jacques, c'était, on l'a dit tout à l'heure, frère de Jésus, celui qui a écrit l'épître de Jacques. D'ailleurs, son prénom, c'était Jacob, hein. Ce n'était pas Jacques. Ce Jacques, il n'était pas converti. Du temps de, je dirais, à la fin des évangiles, souvenez-vous, les frères de Jésus, ils ne croyaient pas en lui. Mais nous apprenons que les frères de Jésus étaient présents parmi les 120, juste avant la Pentecôte. Et donc là, si vous voulez, ce Jacques, frère de Jésus, n'a pas suivi Jésus pendant ces 3 ans et demi. Et il n'avait pas eu la formation des autres apôtres. Mais c'est justement lui qui est devenu le pasteur de l'église de Jérusalem. On en a plusieurs preuves dans le concile de Jérusalem, dans Acte 15. C'est Jacques, le dernier, qui parle et qui donne la décision finale. Dans Acte, vous verrez, à la fin du livre des Actes, Paul revient de son dernier voyage, le troisième dont parle la Bible, et il s'arrête chez Jacques et tous les anciens s'y réunissent. On a donc une preuve que Jacques était bien le pasteur de l'église de Jérusalem. Mais il était plus jeune que les autres apôtres. Mais ce qui est important, ce n'est pas l'âge. Ce qui est important, c'est d'être à la place où Dieu nous met et de faire ce que Dieu dit. Dieu avait dit, c'est Jacques qui sera le pasteur. Et Jacques est devenu pasteur. Vous comprenez? Et là, si on s'en tient, c'est toujours la même chose. Bâtir l'église, c'est s'en tenir aux directives du Seigneur. C'est faire ce que le Seigneur veut et pas ce qu'on pense être le mieux. Hein, c'est pas possible, on ne peut pas fonctionner de cette manière, c'est pas possible. Il faut toujours dépendre de Christ. Je vous ai parlé de Matthieu 17, la transfiguration, ils ne virent que Jésus seul. Et la voix leur a dit, celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection, écoutez-le. Et le problème, le gros problème, c'est que c'est pour ça que malheureusement, quand j'ai expliqué ces principes, on m'a mis à la porte, hein, tout naturellement, du mouvement, parce que ça dérangeait beaucoup trop. Ça dérangeait beaucoup trop, vous comprenez? On ne voulait pas remettre en question les principes humains, exactement comme les pharisiens et les sadduciens ne voulaient pas remettre en question ce qu'ils pensaient par rapport à Jésus. Mais la Bible est claire. Il faut que le Seigneur soit le premier. Il faut l'écouter, il faut donner la première place, il faut dépendre de lui et il faut faire ce qu'il veut, pas ce qu'on a envie, pas ce qu'on veut. Alors, je termine avec ce schéma. Vous voyez, il est suffisamment clair, le corps de Christ, il est édifié. Comment? De deux manières. Il y a deux manières pour édifier le corps de Christ. Je le lis, 2 Thessaloniciens 2,15. « Ainsi donc, frères, demeurez fermes et retenez les instructions que vous avez reçues, soit par notre parole, soit par notre lettre. »